Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hello à tous, bienvenue à l'Open 13 de Marseille ATP 250. On est sur le stand cordage de Babola et je suis avec deux experts. Johan.
Salut Max, donc je suis responsable des partenariats pour Babola France.
Et Laurent.
Bonjour Max, je suis commercial et responsable des formations chez Babola.
Donc il y a pas mal d'histoires à raconter autour de la marque Babola, du cordage. Et on va commencer par Laurent, puisqu'il me semble que c'est vous qui avez créé ce service en tout premier sur les tournois professionnels.
C'est ça, effectivement, Babola est né, comme tu le disais, en 1875 avec l'arrivée du cordage et surtout du tennis. Et dans les années 80, Babola a créé le premier service cordage international pour les joueurs du circuit.
Incroyable, et je crois qu'à l'époque, c'était pas exactement le même look, c'était dans une caravane, je crois, non ?
Alors, c'est pas tout à fait une caravane, c'était un van Dodge américain magnifique, énorme, qui avait été préparé avec à l'intérieur une télé, un canapé, un frigidaire et les machines à corder. Et donc les joueurs passaient dans ce van, faisaient des fois la sieste. Bon, et ensuite, ils récupéraient effectivement, comme ici maintenant, leur corde et leur raquette.
Et il y avait trois cordeurs comme ici à l'Open 13 où c'était réduit, les machines à quel point étaient différentes dans les années 80 et surtout quel joueur faisait la sieste, il faut que tu balances un peu.
Bon, Yannick, ça lui est arrivé. Yannick Noah, il a déjà fait la sieste dans le van. En tout cas, on avait deux personnes effectivement qui étaient dédiées chez Babola, Lucien Noguès et Jean-Claude Boldini, qui faisaient le tour du monde et qui faisaient plus de 300 nuits d'hôtel par an. Pour le service cordage à peu près partout. Et après, dans les années 90-92, les autres marques ont commencé aussi à faire leur propre service cordage. Et du coup, nous, on l'a conservé pour nos joueurs du team, plus les tournois dans lesquels on est partenaire, comme Marseille, Wimbledon ou Madrid encore cette année.
Du coup, Johan, là, on est à l'Open 13. On fait un petit saut dans le temps depuis 1980. Comment ça se déroule ici? Est-ce que tu as les chiffres clés?
Donc l'Open 13, ici, on a trois cordeurs pour les 10 jours. Trois cordeurs qui d'ailleurs cumulent 42 grands chelems, donc vraiment de l'expérience. Ils vont corder à peu près 400 raquettes dans tout le tournoi. Et là, on faisait un petit point tout à l'heure, par exemple une tension la plus basse, donc c'est pas un joueur, c'est un coach, hein. Georges Goven, 11 kilos. Et on a Andy Murray qui est sur la tension la plus haute à 28 kilos sur le tournoi pour l'instant.
Laurent, du coup, est-ce que tu peux nous contextualiser à l'époque, lorsque vous avez créé le stand cordage sur les tournois, à quel point ça cordait, ça cassait? Parce que maintenant, les joueurs peuvent envoyer 12 raquettes à corder d'un coup, c'est assez impressionnant. Comment ça marchait à cette époque-là?
Alors avant, ça marchait un petit peu différemment, puisqu'il y avait énormément de joueurs qui jouaient en cordage naturel boyau, et notamment le fameux VS de Babola, qui est né dans les années 20 avec les mousquetaires. Et en fait, à l'époque, on avait, je ne veux pas dire 90% du tour qui jouait en boyau avec notre corde. Donc évidemment, on avait beaucoup de cordage à faire sur nos joueurs. Mais après, avec l'arrivée des synthétiques et des nouvelles règles, comme tu le sais, aujourd'hui, on change de raquette tous les 9 jeux. Donc, il y a aussi des joueurs qui demandent une nouvelle raquette pour les entraînements. Donc, on corde beaucoup plus de cordes synthétiques aujourd'hui. Et on garde quand même quelques joueurs en boyau, mais en hybride. J'en parlerai tout à l'heure.
Juste pour bien comprendre, les Yannick Noah et consorts de l'époque avaient combien de raquettes dans leur sac et ils faisaient corder combien de cadres d'un coup?
Alors, ça a toujours été à peu près la même chose, si tu veux. On avait des joueurs qui avaient entre 4 et 5 raquettes dans leur sac et qui, effectivement, les faisaient recorder certains au dernier moment, certains en avance. Ils s'en occupaient un peu plus de leur matériel. Et à ce sujet, j'ai une petite anecdote, si tu veux, sur un certain Mats Wilander, où à Monte Carlo, en 87, si je ne me trompe pas, il venait de gagner 5 fois le tournoi depuis 83. Il était tenant du titre. Et on était au restaurant avec Lucien Noguès aux alentours de 23h30 parce qu'on avait fini tard. Ouais. Et on voit Mats pointer le bout de son nez en disant « I'm sorry Lucien, I have some racket for you ». Lucien s'énerve un peu, lui dit « c'est minuit ». Et il lui dit « bah oui, mais tu joues quand ?» Il dit « premier match demain ». Ah, c'est pas possible, tu peux pas t'occuper de ton matériel, t'es tenant du titre, bon ça va, je te les prends et je te les fais. Et il prend le couteau qu'on avait à table, il décorde les raquettes, il les pose sur la raquette, il dit « va-t'en, je te les fais pour demain okay. ». Et là, tout le restaurant était scié parce qu'on engueulait Mats Wilander qui s'occupait de son matériel à minuit.
Allez, Mats, va te coucher. Johan, toi, il me semble que tu gères les contrats avec les joueurs. Est-ce que tu peux nous dire combien de bobines t'envoies par an au Rafa, Alcaraz ou Arthur Cazot, par exemple, et combien de kilomètres de cordes ça représente, les plus tintillons, est-ce que tu as des infos un peu de l'intérieur là-dessus, que tu peux nous partager, évidemment?
Ouais, bien sûr. Alors, je m'occupe essentiellement du programme de recrutement pour les joueurs français. On a un service sport marketing qui s'occupe des top joueurs. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu penses que Rafa, il utilise combien de bobines dans une année, à peu près?
Franchement, c'est très dur. Je côtoie des cordeurs privés sur les tournois, donc je vois à peu près... Félix, c'est chez vous, Félix Ogier-Aliassime? Ouais. Et ça envoie 10 raquettes d'un coup tous les deux jours. Donc on est à quoi? On est à combien de poses sur une bobine? On est à 25, 20 poses, non? 18. Ouais. Ça, faut que j'aille vite, mais il doit être à 3 bobines par tournoi. S'il y a 10 tournois, 30 bobines. Allez, à la louche, une quarantaine par an.
T'es pas mal. T'es pas mal. Félix, il est autour de 45 bobines par an. 45 bobines par an. Les tops, c'est Rafa et Carlos qui reçoivent à peu près 60 bobines par an. Globalement, ça fait entre 12 et 13 km de cordage qu'on envoie chaque année à Nadal et à Carlos.
C'est quoi? C'est pour les mettre bien ou c'est vraiment par souci de confort parce qu'ils en ont besoin d'autant?
Non, en fait, ils en ont besoin. Nous, l'objectif, c'est que le joueur, il se pose pas de questions. Il est son matos et globalement, tant qu'il a besoin de cordage, on l'envoie. Après, il y a l'entraînement aussi. Hein. Plus tu t'entraînes, plus tu consommes. Hein. Donc peut-être qu'il faut comprendre aussi que ce sont ceux qui s'entraînent le plus. Après, plus tu gagnes des tournois, plus tu gagnes des matchs, plus tu consommes aussi avec le changement de raquette tous les 9 jeux. Donc après, c'est décroissant. Par exemple, on a beaucoup de joueurs entre 35 et 40 bobines. Dominic Thiem, Giovanni Empeci, Arthur Cazot, Leila Fernandez, Holger Rune. Donc tous ces joueurs-là sont plutôt en général entre 30 et 45 bobines et Carlos et Rafa au-dessus à 60 bobines.
Incroyable. Et qui casse le moins chez Babola?
Oh, c'est une bonne question. Je pense que ça doit être Clara Burel parce que Clara consomme que 10 bobines par an et Clara joue en hybride. Elle joue RPM Team et XL dans les travers pour garder encore pas mal de confort. Et du coup, Clara casse beaucoup moins. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est que tout notre team de joueurs à qui on envoie du cordage, c'est la distance Lyon-Marseille. C'est 340 km de cordage qu'on envoie chaque année à tout notre team de joueurs sur le tour.
Énorme. Qui tend le plus haut et le plus bas chez Babola?
Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a eu un joueur qui jouait chez Babola, qui a le record de tension, Dustin Brown, sur sa Pure Drive à l'époque, 39 kilos. Ça n'a jamais été battu. Et après, on a Adrian Manarino. Tout le monde le sait un peu, hein, on est autour de 11-12 kilos. Mais ce qu'il faut surtout retenir, l'autre stat que les gens ont moins sur Adrian Manarino, c'est qu'il est capable pendant 3 jours de te dire, allez, tend à 12. Et le quatrième jour, aujourd'hui, je veux 12,1 ou 12,2. Et ça, c'est incroyable. Enfin, c'est vraiment le seul à être aussi tatillon sur son cordage, c'est exceptionnel.
Adrian qui pèse ses surgrips d'ailleurs. Je crois qu'on a une intervention sur la gauche.
Xavier disait que cette année, justement, à l'Australian Open, il y a quelques jours, Adrian a demandé 10 kilos. Donc on est sur le record à la baisse. Ouais. 10 kilos en tension.
Je crois qu'à une époque, il y a Carlos Moya qui avait écrit à l'usine Babola. Est-ce que tu peux nous raconter?
Alors, il faut que tu saches en fait que les boyaux, les cordages naturels, sont fabriqués à Pleurmel en Bretagne. On s'est rapproché en fait des plus gros abattoirs de France, puisque le cordage naturel, c'est très particulier, c'est un savoir-faire unique qui appartient à Babola. Et cette matière première qui est jetée, qui ne serait pas consommée, en fait, on la récupère. C'est de l'intestin de mouton au début et de vache maintenant. Et on va le transformer. Sache qu'il faut deux bœufs ou deux vaches pour faire un cordage de tennis. Et 40 kg de matière première deviennent, après transformation, 20 grammes de produits finis qui vont sur les raquettes. Et un joueur comme Sampras, à l'époque, il consommait pratiquement 1000 cordages à l'année, parce qu'il jouait avec un boyau extrêmement fin. Et on parlait de tension forte tout à l'heure, Sampras, c'était 37 kg sur un tout petit ami. C'était vraiment un travail incroyable à faire. On mettait plus d'une heure à faire sa raquette.
Quelle jauge?
120.
Donc, 1,20.
En boyau naturel, complètement naturel, pas protégé du tout, avec aucun surfaçage.
Il cassait au bout de combien de jeux?
Il cassait très rapidement, et puis des fois on en cassait au cordage, parce que je peux te dire que quand on est à 37 kg sur du boyau naturel en 120, il faut prendre son temps. plus d'une heure.
Et du coup, Carlos Moya, ancien numéro 1 mondial, vainqueur de Roland-Garros, qu'est-ce qu'il a fait celui-ci?
Carlos Moya, à Plouarmel, donc en Bretagne, il a écrit à l'usine pour remercier du travail et de la qualité des cordes qu'il avait eu toute sa vie. Et puis une autre anecdote un peu plus différente, mais qui concerne aussi Plouarmel. François Bayrou, qui est venu visiter l'usine une fois à Plouarmel en Bretagne, est reparti. On a été obligé de lui changer en dernier recours son costume, qui était un petit peu abîmé par l'odeur, parce que l'odeur de l'usine Plouarmel, c'est quand même un petit peu compliqué. Et on a été obligé de lui trouver un costume en rechange très très vite pour son prochain rendez-vous. Lyon, donc à Plouarmel, c'est aussi, ben, tu parlais de kilomètres, c'est 2400 kilomètres de cordage boyau par an qui sont fabriqués à Lyon. Ah, à Plouarmel, pardon.
Il y a une sorte de légende autour du cordage boyau. Moi, personnellement, je n'ai jamais joué avec ça. Qu'est-ce qui le rend aussi unique, aussi fin, subtil et précis, en fait?
Alors, si tu veux, c'est de la matière naturelle et qui, effectivement, des lanières qui sont superposées les unes aux autres. Et comme c'est un produit naturel, ce boyau, il va se cicatriser. D'accord. Ça va faire plus qu'un. Tu peux prendre toutes les couches de synthétique que tu veux, tu les empiles, mais ça ne fera jamais quelque chose qui a été amalgamé. Un cordage naturel, il va se cicatriser, il va s'amalgamer, ce qui fait que c'est le cordage qui va résister le mieux à la tension. Parce que c'est un produit naturel. Alors il a un petit défaut aussi, c'est qu'il va craindre un peu plus l'humidité. Mais par contre, il ne craint pas du tout la chaleur, alors qu'un synthétique va craindre la chaleur, il va se détendre, il va se ramollir, au même titre que d'autres choses, matières synthétiques. Et ce cordage boyau, il a des qualités exceptionnelles de vitesse, de contrôle et surtout de rendement et d'amortissement des vibrations. Et c'est une sensation très particulière. Et aujourd'hui, on a des joueurs encore à très très haut niveau qui achètent du boyau chez nous, qui le mettent en hybride sur leur raquette, même s'ils ne sont pas en contrat chez nous.
Et il a la particularité d'être très cher aussi. C'est quoi la différence de prix entre un boyau et un autre cordage?
Ça peut être du simple au double selon le type de cordage, mais le boyau, c'est effectivement la Rolls aujourd'hui du cordage.
Du coup, c'est quoi le prix du boyau?
45€. Non posé.
Un entrée de gamme chez Babola, milieu de gamme et haut de gamme, on va dire, non boyau.
Alors, ce qui va se rapprocher le plus en synthétique chez nous, ça va être une corde comme le XL, par exemple, qui vaut 30€ non posé et qui va porter à l'intérieur aussi beaucoup, beaucoup d'élasticité, de souplesse, de rendement, parce qu'à l'intérieur d'un XL, qu'on fabrique aussi en France, à Lyon, à côté de Lyon, à Corba, c'est 1200 fibres à l'intérieur. On est obligé de mettre 1200 fils pour essayer de se rapprocher de la qualité intrinsèque du boyau.
Et c'est quoi la répartition joueurs encore qui jouent en boyau et d'autres en synthétique?
Alors beaucoup, beaucoup plus aujourd'hui en synthétique qu'avant, hein, évidemment, ça s'est inversé par rapport à il y a 30 ans. Leila Fernandez, par exemple, joue encore en boyau à 100%. Et beaucoup, beaucoup de nos joueurs, même des joueurs qui ne sont pas chez nous, jouent en hybride. C'est-à-dire qu'ils mettent une corde très dure sur les montants et une corde très souple sur les travers pour avoir les qualités intrinsèques des deux. Du contrôle sur la corde dure et de la puissance sur la corde souple.
Chez Babola, on a Steve Johnson qui joue encore en boyau, Taro Daniel, James Duckworth. Donc il y en a encore quelques-uns.
Ouais. Il y avait une légende qui courait à l'époque, les joueurs qui étaient en boyau devaient payer eux-mêmes leur cordage. C'est vrai ou pas?
Non.
Légende urbaine, totalement inventée.
Globalement, quand tu es un joueur Babola, en contrat et que tu joues le tour, tu payes pas ton cordage, on te l'offre. Enfin, on te met tout le matériel à disposition pour que tu sois dans la meilleure disposition pour jouer. Donc ça, pour le coup, ouais, petite légende urbaine. Ouais.
Est-ce que vous avez des joueurs en contrat uniquement cordage parce que le produit fait la diff chez vous par rapport au reste du marché, on va dire, et qui ne jouent pas forcément avec les raquettes Babola?
Non, on n'a pas de joueurs uniquement en contrat cordage. C'est très important pour nous. Le combo cordage-raquette, on le sépare pas. Ça va ensemble, c'est la même famille, même si la performance c'est 50-50. C'est très important pour nous que le joueur qui s'il veut un cordage Babola, il faut qu'il joue avec nos cordes, ou alors on lui vendra.
Et alors, toi, je crois que tu as géré un peu les contrats jeunes des Arthur Cazot, Arthur Fils, Clara Burel. En quoi ils sont différents lorsque c'était pas encore des stars qui sont en train de devenir? C'est quoi les différences du coup des contrats jeunes versus les contrats pro?
En fait, tous les contrats jeunes, déjà à partir des tournois nationaux 8-10 ans, on commence à aller sur les meilleurs tournois français pour aller détecter les meilleurs jeunes. Et on commence par des petits contrats. L'idée, c'est pareil, c'est de leur donner les meilleurs produits pour leur pratique. Alors, c'est pas illimité, hein, comme ça peut être sur un
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns.
don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Sur un contrat pro, mais il va avoir deux bobines de cordage quand ils ont 10 ans. Et après, chaque année, on va augmenter un petit peu. Et s'il reste dans les tops français, puis les tops internationaux, derrière, on va avoir des quantités beaucoup plus importantes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que jusqu'à 12 ans, 13 ans, il joue qu'avec du multifilament. Et ça, c'est hyper important parce qu'on a beaucoup de jeunes qu'on va recruter qui jouent avec du mono et là, on les fait changer direct. Parce que le mono, il casse pas, il est effectivement un peu moins cher, mais c'est très important qu'ils jouent avec du multifilament. Souvent, ils passent par l'étape hybride après. Et après, la plupart jouent avec du monofilament. Chez les garçons, c'est à coup sûr. Et chez les filles, pas toujours. Clara joue toujours avec un hybride, par exemple.
Comment les tensions ont évolué avec le temps ? Est-ce que ça tend de plus en plus bas ? Est-ce qu'à l'époque, ça s'envolait ? C'est quoi la tendance ?
La tendance aujourd'hui, elle est quand même légèrement à la baisse quand même. Avant, on avait souvent des cordeurs, des joueurs qui demandaient du 28, du 29, du 30 kilos. On a même eu des fois un muster qui demandait du 40 kilos avec une corde qui se détendait beaucoup et qui justement, il demandait 40 kilos juste avant de corder pour avoir en match 33 kilos. Aujourd'hui, ça n'existe plus. On a des joueurs effectivement avec des tensions très basses comme on en parlait tout à l'heure, Adrian Manarino et puis Murray aujourd'hui à 29 kilos. Mais la tendance aujourd'hui, c'est un Rafa à 25 kilos tout le temps, quelle que soit la surface, quelle que soit la balle. Et peut-être de temps en temps 25,5 quand il va faire très très chaud. Et un Carlos Alcaraz, il va faire 24-23 et de temps en temps, il va faire 25-24 selon les conditions.
Yann vient de nous dire que pour les jeunes, il valait mieux un multifilament et voilà, protéger, anticiper un peu les blessures. Pour le commun des mortels, le passionné, l'amateur de tennis, qu'est-ce que tu leur recommandes pour pouvoir jouer le plus longtemps possible ?
Alors, de toute façon, quand on va prendre un multifil, de toute façon, ou un boyau, évidemment, on aura beaucoup moins de vibrations. Donc beaucoup moins de tendance à avoir un tennis elbow. Le multifil, c'est vraiment une corde plus souple, plus élastique, qui va apporter effectivement pas mal de puissance. Si on veut contrôler cette puissance, on va augmenter un tout petit peu la tension. Et on va conseiller à chaque fois, pour les joueurs qui cassent beaucoup, de mettre peut-être effectivement du monofil, qui pourront jouer sur la jauge. Plus la jauge est fine, plus le cordage sera puissant, et un petit peu moins, apportera moins de vibrations, mais il sera un peu plus fragile. Et là, on va baisser en tension, on va se retrouver sur les tensions moyennes qu'on conseille aujourd'hui en magasin à 21-22 kg. Ça suffit largement.
Compris là-bas, là ? Ok, les gars ? Arrêtez avec le 24-25.
Moi, ce que je conseille souvent aux jeunes, parce que les sensations sont un peu difficiles à trouver quand t'es jeune quand même, tu joues 3-6, 4-6, tu joues bien, mais t'as pas des sensations de joueur de haut niveau. Je leur conseille de faire une raquette à 10, une raquette à 18 et une raquette à 28. Et de tester. Et là, ils se rendent vraiment compte de la différence de tension. Allez aux extrêmes pour tester.
Et quels sont les retours du coup lorsque les amateurs jouent tendu à 10 comme Adrian Manarino?
Déjà, un monofilament, faut savoir qu'il perd de la tension quasiment directement après avoir été cordé. Il perd énormément de tension. Tu le laisses dans le coffre de ta voiture pendant une semaine. Si tu l'as cordé à 25, il sera déjà à 17-18. Tu vois, sans même vraiment avoir joué. Donc, ils vont pas vraiment s'en rendre compte. Fais le test à l'aveugle, tu verras.
Et ça, on le voit même ici. Tu vois, il y a des joueurs aujourd'hui qui ont demandé à être cordés juste avant le match, en fait, pour pas perdre de tension. Ouais. Ils sont cordés vraiment. Ils demandent très très tôt.
Fraîchement cordés, comme on dit.
Fraîchement cordés. Ben Benoît Paire, à un moment donné, il demandait tout le temps d'être cordé juste avant son match, alors qu'avant, il demandait d'être cordé la veille. Là, maintenant, c'est juste avant son match.
Sacré Benoît.
21 kilos, Benoît. Ok.
Je crois qu'il y a une spécificité pour travailler chez Babola, c'est que en arrivant, il faut avoir un savoir-faire obligatoire. Tu peux nous en parler ?
Ah ben, je l'ai vécu. Quand je suis rentré chez Babola en 86, je me souviens très bien, je suis rentré à 8h30 le matin. Et à 10h30, 2h après, j'étais sur une machine à corder, en train d'apprendre à corder avec Jean-Claude, un des deux cordeurs du team. Et j'ai passé la journée et deux jours à apprendre à corder, du cordage naturel évidemment, puisqu'à l'époque, il n'y avait que ça. Et après, j'ai même cordé dans certains tournois.
Et ça concerne absolument tout le monde dans l'entreprise ?
Alors, tu vas pas le croire, mais oui, ça concerne même le PDG, puisque Eric Babola, à l'époque, était jeune, puisqu'il avait, je pense à Monte Carlo, en 94-15, il avait 24-25 ans. Pierre Babola, pardon, son père, me disait: Laurent, faites corder Eric, parce que je veux qu'il passe 10 heures sur la machine et qu'il sache ce que c'est que corder. Donc Eric Babola, il a cordé à Monte Carlo. On a des preuves, il le sait. On allait même derrière, il y avait le TMC qui venait filmer quand on faisait la pause avec un petit bout de camembert et un petit verre de rouge. Et on cordait toute la journée, comme ils font ces messieurs derrière, depuis ce matin, 7h30.
Ouais, c'est un boulot hyper intense.
C'est hyper intéressant ce que dit Laurent, parce que j'ai un exemple aussi plus moderne, on va dire. C'est qu'on cordait beaucoup aussi sur les tournois Challenger, où souvent il y a un seul cordeur ou deux les premiers jours. Et une fois Challenger de Quimper, en 2017, le cordeur rate son train, arrive en retard. Et là, j'avais un jeune stagiaire qui installait les machines à corder et qui avait appris à corder en venant chez Babola. Et c'est là où certains joueurs ont des vraies habitudes de cordage et d'autres, on va dire que peu importe vraiment qui corde. Et là, tu as Johan Tatelot qui arrive et lui dit « Mais bon, le cordeur n'est pas là, comment je fais ?» Et Johan lui dit « Écoute, tu sais corder toi ?» Il dit « Bah ouais, mais je corde mes raquettes. » Il dit « Allez, c'est bon, vas-y, corde mes raquettes, ça ira. » Tu vois, et s'il n'avait pas appris à corder, on aurait été en galère. Donc Anthony a cordé les raquettes de quelques joueurs à Quimper grâce à ça. Ouais.
Énorme, bien joué la formation les gars. Sur le palmarès, Johan, est-ce que tu as quelques données chiffrées pour nous représenter la longévité et la performance de Babola sur le circuit ?
Ouais, Babola, c'est plus de 100 grands chelems gagnés avec, rien qu'avec le boyau. Puisque dans le passé, on avait quasiment tous les joueurs en contrat à cordage. Qui d'ailleurs, Laurent pourra t'expliquer, parce qu'il était déjà là à l'époque, le logo était présent sur leur cordage et c'est Babola qui a inventé le logo.
Et 100 grands chelems gagnés, je crois qu'il y a toujours une règle naturelle de Pareto, les 80-20, c'est qui les 80% des joueurs qui ont gagné le plus de grands chelems ?
Oh, bah déjà, les 4 mousquetaires, ouais. Forcément. Et puis après, il y a eu Villander, il y a eu Borg,
Sampras,
effectivement. Et on va dire que tous les joueurs des années 80 et pas mal des années 90, ouais.
Puis Rafa qui est venu après.
Ouais, Rafa qui est venu après. Par contre, avec le synthétique, quand je te donne la stat des 100, c'est vraiment en boyau. Après, évidemment, y a eu Rafa, y a Carlos maintenant. Chez les filles, il y a eu Muguruza, Wozniacki. Globalement, si on rajoute le cordage synthétique, on est au-delà de 100 encore.
Ouais. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'un joueur qui n'est pas Babola en raquette n'est pas Babola en cordage. C'est-à-dire que le boyau, il n'est pas forcément labellisé Babola ?
Alors, le boyau, c'est du boyau Babola. En revanche, un joueur qui va jouer avec du boyau Babola et qui n'est pas en contrat raquette avec nous ne va pas mettre le logo, évidemment. Ouais. Il ne va pas mettre le logo puisque c'est un cordage qui va nous acheter.
La transition est toute faite. Laurent, est-ce que tu peux nous parler de ces premiers joueurs de légende qui ont mis un logo sur les raquettes, comment c'est passé, tout ça ?
Ben en fait, si tu veux, Babola a une idée géniale. Vraiment, c'est qu'on a inventé la pub sur le tamis pour la première fois.
La quoi ?
La publicité sur le tamis. C'est-à-dire qu'on a créé un logo, et c'était ce fameux logo VS. Et c'est Björn Borg qui était le premier. Si on retrouve dans les archives, vous verrez des photos, si vous cherchez bien. Vous verrez des photos de sa dalope en bois, avec effectivement le logo VS. Et après, évidemment, les fabricants de cadres ont pris la place, qui était géniale, la place du tamis, puisqu'on voyait que ça, et ont pris la place. Et Babola a continué à exister sur ce fameux tamis, bien qu'il y ait le logo des marques, le W Wilson, le P de Prince, qu'on voulait, mais Babola a existé avec la fameuse double ligne, où tu regardes par exemple une raquette de Sampras à l'époque, avec le W, dessous il y avait deux bandes noires. Amélie Mauresmo, il y avait le D de Dalop avec deux bandes noires, c'était le logo Babola. Et ce logo aujourd'hui, on le retrouve toujours sur nos raquettes, quelles que soient les raquettes, tu as toujours deux bandes, soit bleu, soit blanc, soit jaune, soit rouge. C'est toujours l'histoire de ça.
Donc si Amélie jouait en Dunlop mais qu'elle avait un cordage Babola, elle devait mettre le logo Babola.
Le logo dessous, on a réussi à être encore présent en tant que marque de cordage quand on n'avait pas encore les raquettes à l'époque. Et quand Babola a sorti ses raquettes, évidemment, le logo c'était la double ligne.
Parce que les raquettes sont arrivées en quelle année ?
94.
Ah ouais, c'est pas si vieux finalement.
30 ans cette année.
C'est vraiment des génies les gars.
En fait, les 30 ans de la pure drive, cher ami. La raquette la plus vendue au monde.
Et on pourra en parler une prochaine fois parce que je sens que t'es lancé là. Bon, on va terminer avec quelques anecdotes en lien au cordage chez Babola qui mêle le milieu pro ou amateur. Johan, peut-être tu veux commencer ?
Ouais, alors j'ai une question, Max. Selon toi, combien de kilomètres de cordage Babola en synthétique, Babola produit chaque année ?
Kilomètres de cordage, mais j'en sais rien, c'est tellement dur. Déjà, il y a combien de mètres dans une bobine ?
Il y a des bobines de 100 mètres et d'autres de 200 mètres, mais la plupart c'est 200 mètres. Alors un petit indice. Est-ce que tu connais la circonférence de la Terre ?
Non.
C'est 40 000 km.
C'est ce que vous produisez par an ?
Voilà. Ouais.
Babola produit le tour de la Terre de cordage par an. Voilà. C'est incroyable.
Et 2500 km, j'y tiens, en cordage naturel, comme je te disais tout à l'heure. Ça fait un paquet de boyaux.
Et ça en fait du boyau. Ça en fait de la vache recyclée. Non, mais c'est bien vu au final, parce que c'est un produit, comme tu disais tout à l'heure, qui était voué à être jeté. À inventer d'ailleurs le boyau.
En fait, c'était déjà bien avant 1875, en fait. Ils faisaient déjà des cordes, comme je te le disais en intro, pour les violons et les violoncelles. Ouais. Et à l'époque, Babola s'appelait Babola Mayo. Babola a pris le virage du tennis à 100% et des sports de raquettes. Et Mayo est devenu Mayo Savarez, le leader européen des cordes de guitare et de musique aujourd'hui.
Ils sont forts, les gars.
C'était l'associé de Babola avant.
Ce qu'il faut savoir par rapport à ça, c'est que Babola est une entreprise familiale lyonnaise, hein. Et pour ceux qui connaissent la Halle Tony Garnier à Lyon, qui est une salle de spectacle et d'événements aujourd'hui, c'était les anciens abattoirs de Lyon. D'accord. C'est pour ça que l'ancien siège de Babola, depuis 1850, était basé juste à côté de la Halle Tony Garnier. En fait, il y avait à l'époque, ils partaient en chevaux récupérer les déchets et ils les ramenaient dans l'usine et tout était produit à Lyon. Et après, quand la production bovine a un peu émigré en Bretagne, on a construit l'usine en Bretagne pour délocaliser cette production.
La majorité du cordage est produite en France ou dans quel coin du monde ?
Ah oui, tout en France. Alors 100% des boyaux, comme je te l'ai dit, à Ploermel en Bretagne, à côté des abattoirs. Et à Lyon, à Corbas, on produit 95% de nos synthétiques made in France, sans solvant et avec évidemment des packaging recyclables. Mais tout est fait à Lyon et sur nos propres machines.
Allez Johan, régale-nous une dernière anecdote pour terminer.
On peut parler de service cordage, parce que Babola a cordé sur 800 tournois à peu près jusqu'à présent. Et on en a une bonne, notamment avec Benoît Père, qui est toujours hyper sympa sur les services cordage. C'était à Lyon en 2018. Benoît, il arrive, donc il a oublié son cordage. Et là, il nous dit, les gars, c'est pas grave, prenez sur la bobine de Kachanov, c'est mon pote, il n'y a pas de souci. Bon, forcément, on s'exécute. Ce qui devait arriver, arriva. Kachanov qui arrive 20 minutes plus tard. On lui dit, Benoît a pris sur ta bobine, c'est pas un problème. Et là, il fait, putain, les gars, je l'aime bien, Benoît, mais il me demande jamais, c'est quand même chiant un peu, mais bon, ok, pas de problème, allez-y, quoi. Donc voilà, Benoît, c'était vraiment, c'est vraiment un mec chouette sur les. Souvent, il s'assoit, il prend le café. Donc voilà, des anecdotes comme ça, il y en a pas mal.
Énorme. Et quoi, il oublie ses bobines, il oublie de vous passer un mail pour vous lui en envoyer. Il fait du Benoît, quoi.
Ouais, non, il envoie pas de mail, hein, mais en général, déjà quand il a sa bobine, c'est vrai qu'il arrive qu'à la fin du tournoi, on doit lui courir après un peu pour lui donner, tiens, Benoît, t'as oublié ta bobine. Mais c'est
Benoît, ton cartable.
Non, c'est vraiment chouette. Il y a pas mal de gars comme ça avec qui les liens se créent avec les cordeurs qui croisent dans le monde entier, donc c'est vraiment un chouette métier, ouais.
Du coup, où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Où est-ce que le grand public peut découvrir votre service ?
Ouais, donc là, en France, Marseille, c'est le premier tournoi. Après, n'hésitez pas à venir nous voir sur l'Open de Lyon, par exemple. C'est grand public, donc on vous montrera un peu comment ça marche, comment on corde, quels joueurs on corde, quelles tensions. Vous pouvez venir à Paris aussi, sur le WTA, le trophée Clarins, de la Gardère Paris Racing. Et après, pour les chanceux, n'hésitez pas à Wimbledon, parce que c'est vraiment notre plus gros partenaire depuis 2013. On corde là-bas, on est cordeur officiel et si vous êtes sur place, on vous accueillera.
Énorme. Merci les gars. Merci. C'était très cool. Merci Laurent. Merci, et voilà, mettez évidemment un like à cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne comme d'habitude. Et Laurent est déjà parti, il est rentré à Lyon, je crois, au bureau. Ciao, ciao. Récupérez vos 3 questions bonus en dessous de la vidéo répondues par Xavier, cordeur pro Babola sur le circuit. La première, quel conseil pour éviter au max les fautes niveau cordage ? Entre parenthèses, en cassant beaucoup, niveau 3ème série, habitué au multifilament et en étant cogneur. La seconde, quelle est la combinaison la plus précise entre le type de cordage, la tension et la matière pour débloquer de la puissance facilement sur une raquette orientée contrôle ? Et enfin, que pense notre expert de jouer en très basse tension, entre 10 et 18 kg, et quels sont les setups plus ou moins adaptés, mono ou multifilament, taille de jauge, type de raquette, etc. Xavier a évidemment réponse à tout, et c'est accessible en lien dans la description.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.